Attends, hé, regarde bien, ça va t'amuser. Figitus, figitus, ombre capot.
Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de zat. De grève. Du gaz de schiste.
De gisement, de gaz de schiste.
Du logement. Toi, du féminisme. Bon bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Avec les membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, il est 19h passé de quelques minutes et vous êtes bien sur les ondes du 102.2 Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est l'heure du Canu Info du vendredi. Et alors aujourd'hui, de quoi on va vous parler ? On va commencer par le local, pour vous parler du centre hospitalier du Vinatier qui manifeste contre la suppression de lits. On vous passera ensuite un entretien avec une personne qui participe au collectif Colleuses Féministes Lyon. On reviendra ensuite sur le développement des réseaux de solidarité de quartier. Au niveau national, on vous passera nos brèves d'EHPAD à l'intérieur des Magnolias. Puis on reviendra sur les cortèges de fenêtres sous le coup de la répression. Ensuite, bas les masques. Retour sur un communiqué de l'Académie de médecine sorti cette semaine. Et puis, on vous parlera un peu des tribunes pour la régularisation de tous les sans-papiers en France et ailleurs en Europe. Rubrique nucléaire, avec ce titre mystérieux, le pendentif miraculeux. Enfin, du côté de l'international, on ira voir ce qui se passe en Algérie face au confinement, avec l'Irak qui est toujours debout. On finira par le traditionnel agenda. Bonne écoute sur le 102.2.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
Et en région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite. Une...
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Reportage sur la grève.
Donc, on a des interventions
sur le rassemblement pour le droit à l'IVG qui a lieu à Lyon. Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Ce mardi, 21 avril, plus d'une centaine d'agents et d'agentes du centre hospitalier du Vinatier se sont mobilisés et ont manifesté, oui manifesté, contre des fermetures de lits. Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, 80 patients et patientes ont été renvoyés du Vinatier pour permettre l'organisation de l'établissement à l'accueil de patients et patientes Covid-19 avec une capacité de 50 lits. Au plus fort de l'épidémie, seuls 10 patients et patientes étaient hospitalisés sur ces 50 lits. Or, le 10 avril, le directeur annonce la fermeture de nouvelles unités de psychiatrie adulte. En tout, c'est près de 120 lits qui vont être fermés, sous prétexte d'un taux d'absentéisme trop élevé du personnel, alors même qu'il n'est que de 10%. Les personnels se sont massivement rassemblés ce mardi 21 avril à 14h30 devant les bureaux de la direction pour protester contre ces fermetures abusives de lits qui détruisent encore un peu plus la psychiatrie publique. À l'heure où l'on célèbre les héros et les héroïnes de l'hôpital public, certains n'hésitent pas à profiter du contexte pour appliquer les restructurations des services publics déjà à l'œuvre avant le mois de mars, voire même à les approfondir. C'est l'accès aux soins des patients et des patientes qui est en danger. Non au covidage de lit, et surtout big up au personnel du Vinatier, qui arrive à se mobiliser et faire force collective dans un contexte de haute tension. preuve que la mobilisation collective est encore possible.
El Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Les violences intrafamiliales, les violences sexistes, les violences machistes augmentent pendant le confinement. Alors que les permanences de nombreuses associations sont fermées,
beaucoup se tournent vers des collectifs plus informels, comme celui des colleurs et des colleuses de Lyon. Entretien avec l'une d'entre eux et elle.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza el feminicida.
Qu'on peut présenter par exemple comme une personne qui fait partie du collectif des collages contre les féminicides Lyon.
Absolument, mais c'est collage féministe.
Ah, c'est
on a changé de nom depuis, on est des collages féministes.
Quand est-ce que vous avez changé de nom?
Quand la dirigeante de Paris, enfin la dirigeante, l'initiatrice du mouvement de collage a tenu des propos de transphobes et on a choisi de se dissocier d'eux en changeant de nom et en ne portant pas le même nom qu'eux. Alors je ne saurais plus te dire quand ça a eu lieu exactement, je dirais que ça fait quelque chose comme 2-3 mois.
Et est-ce que tu veux un peu nous redire comment est-ce que le collectif des collages, du coup on dit collage féministe Lyon, c'est ça? Il s'appelle comme
exactement
ça le collectif maintenant. Et est-ce que tu veux nous rappeler un peu comment est-ce qu'il fonctionnait le collectif Collage Féministe Lyon avant le confinement? Un peu combien vous étiez et comment vous vous organisiez?
Alors, combien on est, on ne sait pas trop en fait en soi, parce qu'on se réunit rarement toutes, enfin tous et toutes. Et surtout que moi, je vais rarement aux réunions principales à Lyon. Je vais à l'atelier local de Villeurbanne en fait. Moi, je suis responsable de secteur et d'atelier à Villeurbanne. C'est-à-dire que c'est moi qui organise les ateliers de Villeurbanne. Donc c'est moi qui reçois, c'est moi qui fais les stocks de peinture, qui veille aux stocks de peinture, hein. C'est pas moi qui les paye. Mais je veille aux stocks de peinture, aux stocks de papier pour qu'on puisse peindre, et je fais aussi tout ce qui est intégration des nouvelles.
D'accord.
Formation, information, voilà. C'est surtout un moment d'échange tout court, c'est-à-dire que c'est pas toujours politique, c'est pas... Enfin, après voilà, on explique pourquoi on fait ça, et en gros les règles principales du groupe, donc on ne colle pas sur les biens publics, on ne colle pas sur les métros et autres trucs de transport en commun, on fait attention à ce qu'on colle en face des écoles, on est assez horizontaux, donc c'est vrai que je reçois tout le monde, mais c'est pas forcément moi qui explique aux nouvelles les règles en fait. Après, c'est surtout des lieux d'échange safe où chacun peut parler de son vécu, de son histoire, de pourquoi il en est venu ici, puis aussi de parler un peu de tout ce qui nous concerne. Hein. Je veux dire, la dernière fois, on a passé je sais pas combien de temps à parler de culottes de règles et de protection menstruelle.
J'imagine que tout ça, c'était avant le confinement. Comment
Exactement.
Est-ce que ce collectif il s'organise depuis?
Alors, on est en contact les unes avec les autres pour se donner des infos, notamment... qui a été les évacuations qu'on a pu faire et mise à l'abri des personnes, mais aussi les collectes de nourriture pour personnes précaires qu'on a pu faire.
Alors ça, je pense que ça va vite pour les auditeurs et les auditrices. Ça veut dire que là, depuis le confinement, vous vous êtes aussi organisés pour apporter de l'aide à d'autres personnes.
Oui, tout à fait.
Et comment est-ce que vous... Enfin, comment est-ce que ça s'est organisé?
Alors, on s'est envoyé des messages, par exemple... On s'est envoyé des messages pour dire, on organise une collecte de nourriture, s'il y en a qui veulent participer, il faut passer les déposer à telle personne, qui ensuite s'occupera de les redispatcher auprès des personnes qui en ont besoin. Mais c'est aussi, y a telle femme qui est en danger, qui nous a contactés, il faudrait qu'on aille la sortir de là, qui est volontaire pour aller la chercher, qui est volontaire pour l'héberger, voilà.
Et du coup, les gens, ils vous contactent par les réseaux sociaux?
Exactement.
D'accord. Et vous avez-vous les ressources pour répondre à ces demandes?
Normalement, on ne le fait pas. Les ressources, c'est nos ressources personnelles, en fait, qui sont utilisées. Après, on a aussi une cagnotte à nous qui a servi, par exemple, On a fait des dons pour les TDS précaires, enfin, les travailleuses du sexe qui sont très précarisées par la situation de confinement. On a fait plein de choses, en fait, depuis le début du confinement. Je me rendais pas compte qu'on avait fait autant de choses.
Ouais, moi, ça me paraît beaucoup parce que vous avez, à la louche comme ça, tu sais combien de personnes vous avez pu aider ou secourir dans des cas de violence ?
Alors, secourir, je crois qu'on est à 2 ou 3. Actuellement, j'en ai une à la maison. Et aider, alors, les collectes de nourriture, je crois qu'on a pu aider, 6 ou 7 familles dans le 8e, une à Villeurbanne. Je crois que c'est tout, mais bon, ça fait quand même une dizaine de familles aidées et trois personnes mises à l'abri.
D'après toi, c'est des situations spécifiques au confinement ?
Oui. Hors confinement, je n'aurais pas pu accueillir celles que j'ai à la maison, par exemple.
Et est-ce que vous renvoyez aussi vers d'autres types de structures ou d'associations ?
Pour celles qu'on a secourues, c'est ce qu'on a essayé de faire. Sauf que on a l'impression que les associations qui, en temps normal, viennent en aide aux victimes sont vachement limitées au niveau de leurs actions. Deux, parce qu'elles sont des structures légales avec pignon sur rue, et donc plus surveillées que nous, où personne ne sait exactement qui on est, où on est.
Et entre vous, comment est-ce que vous arrivez à prendre soin de vous, entre vous et du groupe ? C'est pas évident à distance.
On fait des visios, on s'appelle, dès qu'on voit qu'on n'a pas de nouvelles de quelqu'un et que ça nous inquiète, on alerte les autres. Notamment, moi, quand je ne suis pas très bien, j'ai tendance à appeler une du groupe qui est psy pour parler, vider un peu mon sac. Oui, on essaye autant que possible de prendre les soins les unes des autres, les uns des autres.
Et est-ce que vous discutez entre vous de reprendre les collages ou pas du tout ?
Alors, on en fait des virtuels, vu qu'on ne peut pas sortir. Moi, personnellement, j'ai recouvert les vitrines de mon commerce de collage, par exemple. On en fait aussi sur nos murs, à l'intérieur ou sur nos sols, qu'on prend en photo et qu'on partage sur nos réseaux sociaux. Après, les collages pendant le confinement, c'est dangereux. C'est un coup à avoir encore plus de galères que hors confinement, en fait.
Et sur les réseaux sociaux, est-ce que vous portez un discours au nom du Collège Féministe Lyon sur la recrudescence de violence ou sur d'autres questions féministes ?
Oui, on a un poste par jour sur différents sujets féministes. Par exemple, hier, c'était la précarité menstruelle. Aujourd'hui, c'est sur les violences sexistes. Après, j'ai pas le calendrier en tête, mais oui, on a des postes quotidiens sur différents sujets féministes.
De collage féministe, collage inclusif, rejoins-nous, soutiens-nous. On peut aussi les suivre sur Instagram et les soutenir en participant à leur pot commun que vous trouverez sur le pot commun Collage Féministe Lyon. L'argent sert en temps normal à financer les collages, acheter de la peinture, de la colle, des pinceaux. Il sert aussi, surtout actuellement, à soutenir matériellement beaucoup de femmes.
Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio.
Okay. Et d'après toi, du coup, quel est le sens ou le but de votre collectif actuellement ?
Interpeller sur toutes les galères que c'est d'être une femme, en fait. Parce que mine de rien, il y en a beaucoup.
Et t'as l'impression que vous avez de plus en plus de demandes ou pas ?
Oui, parce qu'en temps normal, on dirige vers les structures associatives qui en temps normal fonctionnent, qui maintenant fonctionnent pas et ne sont pour beaucoup pas joignables. Du coup, c'est vrai que les gens ont tendance à se tourner vers nous. Dommage, mais on va pas les laisser comme ça sans réponse, lettre morte.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Depuis le début du confinement, la solidarité s'organise quartier par quartier à Lyon et aux alentours. À la Guillotière, on a vu passer des appels à partager les digicodes pour permettre aux personnes sans abri d'avoir moins de chances de se prendre des amendes pour le non-respect du confinement, ou encore laisser l'accès aux poubelles remplies d'invendus pour les personnes les plus précaires et peut-être d'autres possibilités qu'il reste à inventer. Il y a aussi la création des brigades populaires, qu'on retrouve à la Guillotière ou à la Croix-Rousse, qui organisent des collectes et des redistributions de denrées. Nouveau collectif, c'est maintenant du côté de Cusset Grand Clément que ça s'organise. Les habitants et les habitantes du quartier Cusset Grand Clément à Villeurbanne ont créé un collectif solidaire afin de faire face à la situation sanitaire et sociale. Ces habitants et ces habitantes ont décidé de s'organiser sur le modèle du McDo des quartiers nord de Marseille, qui a été réquisitionné par des habitants et des habitantes, pour le transformer en point de stockage de distribution de nourriture pour celles et ceux qui en ont besoin. Par ce geste, ils et elles affirment que la solidarité ne doit pas être mise entre parenthèses dans l'attente d'un incertain après, mais doit se construire dès maintenant. Au niveau du quartier, ils et elles essayent de proposer des actions concrètes, de tisser un réseau de solidarité entre voisins et voisines, qui pourra permettre aux plus précaires de s'en sortir, que ce soit des étudiants, des étudiantes, des chômeurs, des chômeuses, des migrants, des migrantes, des soignants, des soignantes, des travailleurs, des travailleuses ou encore des familles nombreuses. Le collectif rappelle que ce n'est pas le confinement qui affame les plus pauvres, mais la gestion du gouvernement Macron, plus préoccupé par le sort des entreprises que celui de la population. Pour l'instant, la permanence solidaire Cusset propose aux personnes qui le veulent, ainsi qu'aux associations AMAP ou encore Maraude Solidaire, de venir déposer au centre social de Cusset, 87-89 rue Pierre Voyant, des dons alimentaires, en priorité des produits secs et non périssables, conserves, pâtes, riz, les lundis, mercredis et jeudis, entre 17h et 19h. En miroir, le collectif propose aux personnes du quartier qui en ont besoin de venir récupérer ces mêmes dons, les mardis, de 15h à 18h et les vendredis, de 16h à 19h, au centre social de Cusset. On vous redonne l'adresse, 87-89 rue Pierre Voyant, et si vous voulez les contacter, vous pouvez leur écrire à collectif-solidarité-6-qc@riseup.net.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
À l'intérieur des Magnolias. Brève d'EHPAD.
La suite.
J'entends pas ma petite.
Je m'appelle Rose, j'ai commencé à bosser en EHPAD au Magnolia comme auxiliaire de vie depuis 2 semaines. Le reste du temps, je suis étudiante à la fac. Je suis venue bosser pour du renfort pendant la période de confinement. Habituellement, je fais que des missions ponctuelles en intérim. Les Magnolias, c'est un EHPAD de Lyon. Il y a 70 places en chambre classique et 10 dans une unité protégée pour les malades d'Alzheimer.
À vos souhaits.
J'ai été formée sur le tas pour tout ce qui est normes d'hygiène. À un moment donné, j'ai su qu'il était préférable que je porte une charlotte, mais c'est pas obligatoire, comme les lunettes et les visières. En fait, à part le masque et la surblouse, je sais pas vraiment ce que je dois porter. Pour la charlotte, je dois la demander à l'infirmière qui est là le matin, et parfois elle en a plus, ou alors c'est pas elle que je dois demander, ou c'est pas elle qui les a. Moi, j'ai toujours peur de déranger, surtout qu'elles sont toujours super occupées, qu'elles ont beaucoup de travail, et puis une collègue m'a dit que je pouvais demander en cuisine. Alors maintenant, je prends ma charlotte en cuisine.
C'est mon mari qui aime bien cuisiner.
Et vous, pas trop? Grand consommateur du fameux brandy qui en remplissent les entrepôts.
moins qu'il cuisinait ça.
D'accord. Et ils cuisinaient quoi de bon?
Et pour gérer leur commerce, tout en étant à proximité.
Pas énormément, parce qu'ils étaient artisans, alors. Ils n'avaient pas tellement de temps.
Ah oui.
Mais le peu de temps qu'il avait,
la mairie de la ville.
On nous avait donné un nouvel équipement, des visières. En gros, c'était une sorte d'intercalaire attaché à une sorte de serre-tête qui arrivait jusqu'à un peu plus bas que le menton. En vrai, j'ai vu personne l'utiliser. Moi, je l'ai essayé une fois, j'ai eu trop chaud, ça faisait de la buée et elle s'est cassée, alors je l'ai rendue. Avec les collègues, on n'en parle même plus, à part pour en rigoler.
Vous avez eu du chocolat avec ? Ouais ? Vous l'avez déjà mangé ? Ah, il n'y en avait pas ?
On a reçu des nouvelles blouses avec des manches, uniquement pour les soins invasifs, qui sont bien appréciés, mais malheureusement, on nous a prévenu tout de suite. Il en reste deux cartons et pas de nouveaux arrivages de prévu. Parfois, la direction demande à hospitaliser une personne malade, mais parfois, c'est pas possible. Pour une question de place, peut-être, mais je ne sais pas pourquoi certaines le sont, d'autres non. Je sais pas quels sont les critères. Peut-être la douleur en est un, je ne sais pas dans quelle mesure les EHPAD sont équipés pour gérer la douleur des personnes, ou jusqu'à quel point. Je sais seulement que certaines personnes sont décédées à l'hôpital et d'autres à l'EHPAD.
Je n'aurais jamais cru que j'allais finir comme ça. Et pour ça, je suis là, pas contente, mais pas mécontente non plus. Alors...
J'ai appris qu'il y avait eu, et sans doute y a-t-il encore, des cas de Covid parmi le personnel, mais l'information ne tourne pas vraiment. Les collègues en parlent parfois entre elles, prennent des nouvelles. En fait, il faut avoir des symptômes pour être testé.
Ils n'ont pas parlé, ils n'ont rien dit.
Ouais,
même
Léa.
Ils ont travaillé aussi, donc il n'y a pas rien qui a parlé.
Comme geste de la part de la hiérarchie, je cite pour remercier le personnel de son implication, les repas sont offerts. Aussi, on nous a informé que des psychologues étaient disponibles sur des lignes téléphoniques ouvertes par les CMP si jamais on avait besoin de parler.
Bon, on est vendredi. On va vite.
Les arbres de la Mata Atlantica sont chargés de fruits mûrs.
Les équipes réfléchissent depuis quelque temps à faire des animations. En vrai, les soignantes le font déjà à leur échelle depuis le début. Des danses dans les couloirs, les Scrabble improvisés à la volée de ma collègue Sabine, des vidéos envoyées aux familles.
Progressivement, des animations sont remises en route, comme des goûters à plusieurs personnes, des repas plaisir, et toujours avec les règles de distanciation.
Je fais, je fais des mots, pas toujours pareil. Alors il y a des fois je peux rien faire du tout, alors je fais comme quand on a, comme quand on joue à plusieurs, je dis je passe mon tour. et je fais avec quelque chose. Voilà.
Apparemment, l'EHPAD aurait reçu pas mal de dons au niveau du matériel, et notamment une tablette. En tout, il y en a deux, pour que les résidents et les résidentes puissent faire des appels en visio avec leur famille. Au début, on utilisait les portables, mais la taille des écrans n'était pas adaptée. Maintenant, c'est bien plus visible.
Je viens d'Italie, mes grands-pères et sa femme, elles étaient là déjà, ils nous ont fait venir, on a trouvé du travail, on a travaillé, et puis voilà.
Antoinette était toute heureuse un midi, pendant la distribution du repas, car elle avait reçu un journal intitulé de son nom de famille et sous-titré « Un journal qui ne parle que de votre famille ». Ses petits-enfants avaient créé ce journal avec de leurs nouvelles, des photos, des textes, des poèmes, et lui avaient envoyé. C'était super bien fait.
Un beau soleil, tout tranquille.
Beaucoup de familles déposent des colis avec des chocolats, des cadeaux, de quoi lire ou grignoter, mais d'autres aussi ne le font pas ou plus. Par peur du Covid, par éloignement géographique.
Non, mais c'est pas la télé, ça c'est les films qui me mettent. Ben oui, mais il veut pas venir. Il a peur.
Pauline et Mireille s'échangent des journaux, que ce soit le Progrès ou des magazines de couture ou autres. Je joue le rôle de factrice lorsque je passe dans leur chambre. Alors, elles s'envoient du courrier, mais aussi des grosses bises et bien des bonjours.
Ça vous fait une belle tête.
Ah bah merci.
Marcel et Geneviève ont recommencé à se donner rendez-vous dans la chambre de l'une ou l'autre. Un jour, ils sont même descendus à l'accueil et ont demandé à sortir, l'air de rien. Bien sûr, ils ne pouvaient pas, mais bon, au moins, ils auront essayé, c'est normal. J'ai appris qu'avant d'être à l'EHPAD, ils habitaient dans le même lotissement. Et puis, se sont retrouvés ici.
L'âge d'or du cognac s'arrête brutalement.
Vous aimez le cognac ?
Pour les fêtes, les
Madeleine, qui est toujours en vadrouille dans les étages, s'installe parfois parmi nous pendant les relèves. On lui fait une place dans le cercle et elle nous regarde, tout sourire. Un midi, elle me rejoint à table pendant que je mange et elle m'a accompagnée d'une chanson pendant ma pause.
Violon sur lequel ton archet joue et qui vibre tout du long, appuyé contre ta joue, tantôt l'air est vif et gai comme un refrain de folie, tantôt le son fatigué traîne avec mélancolie. Et vibrant à l'unisson, mon cœur est un violon.
Eliane commence à se souvenir de mon prénom. Pourtant, elle n'a jamais vu mon visage découvert, ou très peu. Les masques cachent une bonne partie de notre identité. Par exemple, ils cachent notre bouche, notre sourire, certaines de nos mimiques. Même si les yeux sont expressifs aussi, les résidentes n'ont pas accès au langage non-verbal que renvoie un sourire, nos lèvres quand nous parlons. Et alors il est plus difficile de nous comprendre, surtout pour celles et ceux qui n'entendent pas très bien à la base.
C'est triste parce que j'entends, quand on parle, j'entends très bien, mais je comprends pas, il y a quelque chose qui va... Je comprends pas ce qu'on dit. C'est difficile. Alors, souvent, les gens croient que j'entends pas. On me crie dans les oreilles. Mais je dis, j'entends, mais je comprends pas. Il y a des personnes, ça dépend comment on parle, tu sais. Il y a des personnes, c'est pénible. C'est comme ça.
Je nettoie les couloirs et comme chaque jour, je croise Marguerite, toujours à sa porte. Elle a commencé à se balader un peu autour de sa chambre. Et récemment, elle a reçu la visite de sa fille, qui est montée un petit moment après lui avoir déposé un colis à l'accueil. Elle me raconte qu'au début, elle ne l'a pas reconnue, tout en mitouflée qu'elle était. Elle en a parlé pendant des jours, tellement elle était heureuse de l'avoir vue.
Différents groupes de résistants. Toujours sur les grandes. Toujours merde, je ne pourrais pas le sentir, on ne voit pas.
L'isolement des résidents et des résidentes est très pesant. Tous les jours, ils nous font part de leur désarroi, leur tristesse, leur colère. D'autres, c'est par le silence qu'ils s'expriment. À la question « Comment ça va ?», la réponse la plus courante est
comme tout le monde, pas trop mal, pas trop bien.
Il y en a de plus en plus qui ouvrent leurs portes, qui veulent qu'il y ait du passage. Au début, ils restent sur le seuil, et puis ils commencent à faire quelques pas, et puis ils vont de plus en plus loin pour se dégourdir les jambes.
Il fait bon, oui.
Un matin, en arrivant, j'ai vu Charles ramasser les feuilles dans le petit patio du rez-de-chaussée. Il m'a dit que plus tard qu'il aurait aimé jardiner un peu, mais il sait qu'il doit rester dans sa chambre. Mais enfin, il ne pouvait pas laisser toutes ses feuilles mortes par terre.
En fait, même si l'isolement protège les personnes du Covid, il les affecte aussi très fort, sur le moral. Certains et certaines sont touchés par le syndrome de glissement, c'est-à-dire une soudaine perte d'autonomie, un changement dans l'attitude, une perte d'appétit, et alors les personnes peuvent se laisser totalement aller.
L'allocution de Macron du 13 avril en a énervé plus d'une. Notamment Janine. Elle dit qu'elle comprend pas comment les gens vont pouvoir continuer d'être enfermés. C'est pas possible. Macron, il est pas enfermé, lui, c'est sûr. Ou alors dans un château, mais et les autres ? Beaucoup se tiennent informés, surtout par BFM TV. et les nouvelles sont inquiétantes et pas du tout traitées avec tact. Josette me dit qu'elle a entendu que les personnes des EHPAD vont être les dernières à sortir du confinement et qu'elles le seront jusqu'à décembre. Comment tenir le coup avec des nouvelles pareilles en boucle à la télé ?
En plus du retour progressif de certaines animations, la visite des familles est à nouveau possible sur des créneaux dédiés, avec les équipements, la distanciation, etc. Au rez-de-chaussée, une table a été installée pour ça. La règle, c'est une personne à la fois par famille, sauf exception, par exemple si les proches viennent de loin et on évite les contacts physiques. Si le ou la résidente en question est alitée, la visite peut aussi se faire en chambre, avec toujours les fameux gestes barrières, la surblouse, le masque. Si tu t'en vas dans la tempête, si tu t'en vas, tu la verras, je ne sais plus. Magnolia sont toujours là.
Les cortèges de fenêtres, eux aussi, sous le coup de la répression ? Dans toutes les villes de France, la police est la même et la liberté d'expression toujours plus restreinte. Les banderoles aux fenêtres sont aujourd'hui une cible pour des pouvoirs publics qui cherchent à museler la contestation grandissante contre le gouvernement, ses abus autoritaires, son incompétence meurtrière et sa logique comptable. À Paris, Marseille, Caen, les témoignages de pression pour retirer telle ou telle banderole un peu trop politique s'accumulent. Dans un article de Mediapart, on apprend que des habitants confinés ont reçu la visite de policiers parce qu'une banderole à connotation politique décorait leurs fenêtres. Selon les cas, ils ont exigé son retrait ou demandé des précisions sur leurs revendications. Mais aussi d'autres témoignages font état de ce genre de pression contre les messages politiques aux fenêtres, dans les grandes villes mais aussi dans les petits villages. À Marseille, la pression faite contre les banderoles un peu trop politiques au goût de la maréchaussée est particulièrement importante. Prise d'identité, pression, déploiement policier surdimensionné, dans certains cas, déplacement de maire, de pression de la part de régies locatives, etc. Et pourtant, la justification légale reste encore très très floue. À Marseille, celle-ci a été « affichage sauvage ». Autant vous dire que cela est flou et laisse toute liberté à la police ou aux autorités locales de savoir ce qui doit être enlevé ou non. Bien entendu, de tels moyens ne sont jamais déployés quand il s'agit d'affichages massifs avec drapeaux tricolores durant les périodes sportives ou les injonctions à être Charlie durant la terrible période des attentats. À Toulouse, il a même été question de garde à vue pour une banderole sur une maison. Depuis un mois, des habitants et des habitantes de la Roseraie à Toulouse avaient affiché sur leur façade une banderole « Macronavirus à quand la fin ?». Ce mardi 21 avril, la police est arrivée chez eux et chez elles pour leur ordonner de décrocher la banderole, ce qu'ils ont fait même si aucun motif légal n'était avancé. Ils ont également demandé à ce qu'un ou une des locataires donne son identité, ce qu'une d'entre eux a fait. Mercredi, les forces de l'ordre sont revenues en rentrant dans le jardin sans autorisation pour lui remettre une convocation pour une audition hier, 23 avril, à 11h. Elle s'y est rendue et immédiatement été mise en garde à vue. Motif : outrage au chef de l'État. Elle a été interrogée en vue de donner l'identité de ses colocataires, ce qu'elle a refusé, tout comme le chef d'inculpation. Cette habitante est sortie après 4 heures de garde à vue, mais on lui a fait comprendre que cette affaire n'était pas terminée et que ses colocataires allaient également être convoqués. On rappelle du coup que cette personne a été convoquée et mise en garde à vue pour avoir mis une banderole qui dit « Macronavirus, à quand la fin ?». Cette répression d'une de nos dernières possibilités d'occuper l'espace public est d'autant plus préoccupante qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux et nombreuses à être confinés, mais il est compliqué de faire face individuellement à ces contrôles, à ces pressions. Les flics ne sont par contre pas en nombre infini, et ils sont déjà en sous-effectif pour distribuer des amendes à chaque coin de rue des quartiers populaires. Alors qu'est-ce qu'on attend pour mettre des banderoles à toutes nos fenêtres, à envahir les façades, à rendre impossible toute pression individuelle ? Pourquoi pas pour le 1er mai ? À défaut de défiler dans les rues, transformons-les en espace permanent de liberté d'expression.
Avant, les masques nous couvraient l'intégralité du visage, mais avec les coupes budgétaires...
Alors aujourd'hui, une mini brève dans la rubrique nationale pour vous parler d'un truc qui est sorti cette semaine. Le 22 avril, donc ce mercredi, l'Académie nationale de médecine a sorti un communiqué de presse intitulé « Accrochez-vous bien au masque citoyen ». Au-delà du parallèle très clair à l'hymne national français, qui parle quand même de massacre et qui donne directement un ton ultra-nationaliste, au-delà d'une tentative de jeu de mots douteux sur une base un peu lamentable et pourrie, au-delà du fait que l'Académie, qui est composée de 135 membres permanents, tous blancs, manifestement très aisés, CSP++++, et à l'écrasante majorité masculine, il y a seulement 10 femmes sur 135, et manifestement aussi, d'après leurs photos, d'un âge déjà bien avancé, ce communiqué de presse est un condensé de stéréotypes, de jugements hâtifs, rapides et ultra réducteurs. Des jugements émis donc par une minorité qui se prend et se place comme une figure d'autorité qu'on serait apparemment censé respecter, alors qu'elle ne parle même pas de son cœur de métier, la médecine, mais bien de notre société, de nous et de ce qu'on doit faire dans l'espace public. Pour illustrer, quelques petits extraits non exhaustifs de phrases qui ont de quoi faire bondir.
Il est possible dans chaque famille de confectionner des masques en tissu artisanaux, alternatif, écran ou barrière lavable et réutilisable à partir de matériaux courants non onéreux.
Alors déjà, chère académie de merde, c'est peut-être probablement pas comme ça que ça se passe chez toi, et on entend bien ta vision étriquée par les œillères de ton vécu homogène et très limité. Mais il y a d'autres formes d'organisation humaine que la sacro-sainte famille, tu sais. Il y a des gens tout seuls, il y a des gens qui n'ont pas les capacités physiques de le faire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens matériels non plus de coudre. Et puis, c'est quoi pour toi, mon onéreux ? Et puis même, en fait, c'est pas les personnes qui sont au service des pouvoirs publics, c'est censé être l'inverse en vrai.
Veiller à ne pas contaminer les autres n'est pas facultatif. C'est une attitude citoyenne qui doit être rendue obligatoire dans l'espace public.
Attitude citoyenne obligatoire. Alors là, on commence à cumuler sérieux. Je crois que j'ai même pas envie de commenter tellement il y a de quoi s'énerver. Mais bon, le pire, c'est que ça tourne un truc à la base bienveillant et plutôt positif, faire attention aux autres, sous un modèle franchement dégueulasse de contraintes, d'obligations et de culpabilisation.
Subordonner cette obligation à la fourniture gratuite de masques par l'État, c'est conforter la population dans une situation d'assistance et de déresponsabilisation.
Bon, bah là, c'est la palme de la connerie, je crois. Cette phrase, elle est tellement pourrie. Conforter la population dans une situation d'assistance et de déresponsabilisation. Non mais franchement, quelle bande de... Oui, énervé, mais on reste poli quand même. Tu sais quoi, chère académie, ton message, on l'a bien entendu. T'inquiète, des masques, on en mettra. Dans la rue, en manif, on en portera des masques. Alors pas ce que tu crois, et pas pour ce que tu voudrais. Mais on sera là, masqués, à se battre, pour ce en quoi nous on croit, avec des barrières et nos armes à nous, pour défendre ce que nous on croit. Oui, chère académie patriarcale autoritaire, t'inquiète, on sortira bientôt toutes et tous masqués, et même bien plus vite que tu ne crois.
Avant, les masques nous couvraient l'intégralité du visage, mais avec les coupes budgétaires...
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border, no nation, stop the potential. Solidarité, most practice, merde. No nation, no border, fight, law and order. Fire,
Osama, no border!
On a déjà parlé la semaine dernière dans les Canu Info de la régularisation provisoire des personnes migrantes sans papier qui a été adoptée au Portugal, avec toutes les limites d'une mesure adoptée pour la période du confinement et pour des raisons de santé publique uniquement. Parce qu'une régularisation provisoire, c'est aussi intéressant que la trêve hivernale. Dans un contexte où des dizaines de milliers de personnes n'ont pas d'hébergement en France, et même si globalement les logements vides sont encore plus nombreux, c'est toujours bien d'avoir un abri pour l'hiver, mais c'est absurde de remettre tout le monde à la rue au printemps. Et de la même manière, pour les papiers, dans un contexte où des centaines de milliers de personnes habitent, travaillent, cotisent, vivent dans un pays, c'est toujours mieux d'avoir des droits pendant quelques mois, mais c'est absurde de leur retirer ces droits à la fin de la crise. Et puis en donnant des droits uniquement pour passer la crise sanitaire, on n'est pas loin de considérer, comme ça s'est déjà vu dans l'histoire d'autres épidémies, que certains groupes pourraient devenir des facteurs de contamination. Et en même temps, ça rappelle aussi que bien sûr, l'épidémie ne touche pas tout le monde de la même manière, mais quand même, on a collectivement intérêt à protéger chaque personne du virus. Et donc on a dit que cette régularisation provisoire des personnes sans papier, elle est passée au Portugal parce qu'il n'y a pas dans ce pays d'AME, et donc que l'enjeu n'est pas le même qu'en France. Mais je crois que pour la France, même une régularisation provisoire, ça serait déjà valable. Parce qu'en France, donc pour toutes les personnes qui ont un statut et qui n'ont pas ou peu de revenus, il y a la PUMa, la Protection Universelle Maladie, et pour les personnes qui n'ont pas de statut, donc pas de papier, il y a l'AME, l'aide médicale d'État. Mais depuis le 1er janvier cette année, certaines conditions ont été modifiées pour accéder à l'une ou à l'autre. Par exemple, pour la PUMA, les demandeurs et demandeuses d'asile peuvent toujours en bénéficier, mais avec un délai de carence de 3 mois. Ça veut dire qu'il faut encore attendre 3 mois après le dépôt de la demande d'asile pour pouvoir demander la PUMA. Un autre exemple pour l'AME, c'est les personnes sans papier peuvent en bénéficier, mais en justifiant non plus de 3 mois de présence en France, mais de 3 mois de situation irrégulière en France. Donc les personnes qui ont ou qui ont eu un visa doivent attendre la fin de ce visa avant de pouvoir demander l'AME. Et ces nouvelles restrictions, plus les difficultés liées au confinement, dont on a déjà parlé ici et ailleurs, font qu'en ce moment en France, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé et qui peuvent difficilement se soigner. Et pour les personnes qui ont des difficultés à accéder à leurs droits ou à des soins, donc notamment les personnes sans papier, c'est le même problème que pour les urgences en ce moment. La fréquentation actuelle des urgences est basse, et c'est pas seulement parce qu'on en a moins besoin, c'est aussi parce qu'on retarde des soins, pour éviter d'engorger les hôpitaux, ou pour éviter de se contaminer au Covid, ou parce qu'on sait pas si on peut être soigné. Et dans tous les cas, un des risques en attendant, c'est d'aggraver certaines pathologies. Tout ça pour dire qu'une régularisation provisoire des personnes sans papier, c'est quand même pas très ambitieux comme revendication, c'est sûr, mais j'ai l'impression que ce serait pas complètement inutile, même en France, même avec l'AME, même uniquement pour des raisons de santé publique. Mais donc, malgré toutes ces limites, la régularisation adoptée au Portugal, elle a aussi l'intérêt de faire exister, sous une nouvelle forme, cette revendication récurrente du mouvement des sans-papiers. En France, c'est des parlementaires qui avaient d'abord demandé une forme similaire de régularisation provisoire, puis une tribune est parue dans Libé il y a 2 semaines à l'initiative du collectif des habitants et des soutiens du collège Maurice Sève à Lyon pour demander une régularisation définitive, et puis depuis, d'autres appels sont encore parus, hier dans l'UMA, un texte qui s'appelle « Construire une nouvelle dynamique pour la régularisation des sans-papiers et l'égalité de droits ». Et aujourd'hui, encore un autre, à nouveau dans Libé, « Les sans-papiers à l'épreuve du coronavirus ». Ces revendications, elles existaient déjà avant dans le mouvement, parce que l'enjeu se limite ni à la santé publique, donc les risques de contamination de la population générale pour certains groupes, ni à la santé des personnes migrantes sans-papiers en particulier. Et c'est par exemple, la revendication du mouvement des Gilets Noirs quand ils ont envahi le Panthéon en juillet dernier.
La devise de la France pour nous, les étrangers, est l'humiliation. L'humiliation, l'exploitation, déportation. La France qui fait la guerre là-bas, chez nous, pille nos ressources et décide pour et avec nos États corrompus. De nous faire la guerre ici. Aujourd'hui, on vient défendre notre dignité. Notre objectif, c'est régulariser tous les sans-papiers, collectivement.
Et cette revendication de régularisation, elle existe aussi dans d'autres pays, par exemple en Belgique, où en ce moment, un mouvement est très mobilisé. L'intérêt, à mon avis, c'est de devoir s'y coller. Si on pense qu'on a collectivement intérêt à ce que les personnes qui vivent ici, et puis aussi celles qui arrivent ou qui vont arriver, que toutes ces personnes puissent bénéficier des mêmes droits que les autres, eh ben, il faut se mettre d'accord sur la manière dont on va s'y prendre, sur le type de régularisation, sur les droits qu'on demande. Et puis l'intérêt aussi, c'est de se rendre compte que c'est pas qu'une revendication illusoire ou idéaliste. Parce que cette semaine est aussi paru un autre article sur ce même thème, dans Les Échos cette fois, et ouais, qui annonce que le gouvernement italien pourrait régulariser 200 000 personnes. Alors oui, c'est toujours un peu pourri, parce que, comme pour les parlementaires français, c'est pour combler le manque de main-d'œuvre à cause du confinement, et parce que 200 000 personnes, ça paraît beaucoup, mais c'est toujours rien qu'un tiers des personnes qui vivent en Italie sans papier. Mais en France, les dernières régularisations collectives, elles datent de 1981 et 1997. Et c'est parce que tous les gouvernements, depuis 30 ans, s'y sont opposés, que ce soit pour lutter contre l'appel d'air ou pour ne pas accueillir toute la misère du monde, que la demande de régularisation collective et définitive peut paraître un peu illusoire. Et pendant ce temps-là, il y a eu des régularisations collectives en Belgique en 1999, puis en 2009, en Espagne en 2005, et en Italie en 2012. Et même si c'est pas pour des raisons qu'on a envie de soutenir, bah comme ça au moins on se rend compte que c'est possible.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Alors aujourd'hui dans la rubrique nucléaire, eh bien un sujet un peu atypique puisqu'on va pas vous parler de centrales nucléaires comme d'habitude. On va vous parler de bijoux. Et oui, puisque l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a récemment communiqué des analyses sur un mystérieux pendentif que l'autorité de sûreté nucléaire avait reçu par courrier en début d'année. Mais quel est donc ce pendentif? Voici un petit descriptif.
Croyez-vous à la magie noire?
Ce pendentif vous relie à la Voie lactée, accroissant ses influences positives et vous aide à communiquer avec vos guides à la géométrie sacrée. Les actions bénéfiques sont similaires à la magnétothérapie, c'est-à-dire au fait d'exposer le corps à une fréquence permettant aux énergies de circuler. Nous y retrouvons donc tous les avantages liés à cette science. Il améliore la flexibilité, il favorise le bien-être des cellules et organes par ses vibrations, il améliore la nutrition et la détoxification, il augmente l'énergie corporelle, renforce le biofilm de l'organisme pour la prévention contre les ondes électromagnétiques qui affectent la santé, et il protège contre les ondes Wi-Fi. Vous pouvez également magnétiser votre eau ou boisson préférée avec ce pendentif en le plaçant sous votre verre, ce qui améliorera sa photosynthèse. Comment ? Le médaillon reprogramme la fréquence naturelle grâce aux gravures qui modulent la fréquence des ondes et permet ainsi la géométrie sacrée de s'exprimer.
Idéal en cas de confinement prolongé, donc. Et alors, les résultats de l'IRSN montrent que le pendentif est faiblement radioactif et contient du thorium-232, de l'uranium-238 et de l'uranium-235, mais leur communiqué ne dit pas grand-chose d'autre. Mais alors, ce mystérieux bijou rappelle par contre une autre histoire et elle date de 2017. À l'époque, des dermatologues français rapportent pour la première fois le cas d'un patient décédé d'une tumeur cancéreuse associée au port d'un pendentif radioactif. Le patient avait porté pendant 3 années consécutives, jour et nuit, le bijou magique. Résultat, il s'est retrouvé avec une tumeur absolument horrible, pile à l'endroit où était positionné son talisman. La CRIRAD avait mené des mesures sur ces objets, petit extrait.
Le niveau naturel dans le laboratoire est de l'ordre de 40 coups par seconde, mais si on s'approche du premier pendentif, on va monter à 400-450 coups par seconde, c'est-à-dire à peu près 10 fois plus que le niveau naturel. Et sur le second pendentif, on monte à 1000 coups par seconde, c'est-à-dire 20-25 fois le niveau naturel. La radioactivité des matériaux qui constituent ces pendentifs est très importante. Elle dépasse d'un facteur 1000 la radioactivité moyenne de l'écorce terrestre et se rapproche de la radioactivité de certains minerais radioactifs. Il faut penser à l'exposition au rayonnement ionisant de toute une série de personnes, de travailleurs, qui extraient ces minerais, qui fabriquent les pendentifs, qui les transportent, qui les entreposent, qui les commercialisent.
Alors les pendentifs sont vendus entre 20 et 200 euros sur les marchés du monde entier et sur le web. Les fabricants ne signalent pas la radioactivité de ces pendentifs énergétiques, bijoux d'énergie scalaire ou pendentifs d'énergie quantique, censés apporter un surplus de vitalité et notamment détoxifier les cellules et prévenir le cancer. Les notices recommandent même un portage permanent, y compris la nuit, pour un effet maximum. Et la CRIRAD précisait en tout cas à l'époque qu'il fallait être attentif aux objets fabriqués à partir de lave volcanique japonaise et que la présence de tourmaline dans la composition du produit doit amener à s'interroger car ce minéral est associé à des roches riches en uranium et en thorium.
Croyez-vous à la magie noire ?
Et oui, et je promets à ma petite sœur de ne pas lui acheter ce pendentif magique pour son anniversaire qui a lieu aujourd'hui. Joyeux anniversaire, petite sœur.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Oh!
témoigné que le président de l'Algérie, il aime renouveler pour tous les cas, son fils, il fait 20 ans.
Mmh.
20 ans, et il aime ajouter un peu. Il aime ajouter 5 ans. En plus, Bouteflika, il donne la chasse de Roland, et ça fait 6 ans ou 7 ans, il n'a jamais parlé avec le peuple. Tu vois, parce qu'il est handicapé, il ne parle pas, il ne fait rien. Ce n'est pas lui qui décide, c'est son frère. Et le peuple qui vient de prendre. C'est pour ça qu'il peut être sorti, pour dégager, quoi. Comme il reste comme ça, il n'y a pas de président. C'est son frère qui décide, en plus, c'est des fouleurs. C'est des mafias. Il y a d'argent, il rentre dans l'Algérie, il met dans nos poches directement. Et c'est pour ça que le peuple est sorti et fait des manifs. C'est l'armée qui décide là-bas. Parce que c'est les grands voleurs là-bas, c'est l'armée. Il y a des manifs, il y a un manif de vendredi, il y a un manif de mardi pour les étudiants. Il y a deux manifs dans la semaine. Mais maintenant, il est parti, il vient. Amis de Bouteflika, ça veut dire non, on n'a fait rien. Maintenant, il y a la maladie, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de moyens pour aider les gens, il n'y a pas de quoi. Le coronavirus en Algérie, ils disent pas la vérité. Ils disent toujours qu'il y a 2 cas, 3 cas, 4 cas pour les gens et faire prendre. Il y a 60 tests par jour, il faut 70. Ça veut dire que c'est pas beaucoup du test. Il y a des gens, ils meurent, et après ils sortent le test. Ils disent, ah ça, ils meurent par le corona. Pour le système, il y a des médecins, il y a des hôpitaux, mais il n'y a pas de moyens. Les médecins, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de ligands, il n'y a pas de protection. Il n'y a rien. Même il y a un hôpital, moi je connais un hôpital, ça va à, je pense, à Delma Bouchecourt, et il ferme. À cause, comme les médecins, ils travaillent, il n'y a pas de moyens. Tu vois, en Algérie, il y a 200 lits pour le coronavirus. Le président de l'Algérie, il ramène du matériel de. Pour l'oxygène, matériel pour, comme il est dans l'hôpital, il est dans l'hôpital de l'armée. Tu vois, il y a un hôpital de l'armée, là-bas en Algérie, à Aïn El Najja, mais ça, c'est un grand hôpital. Le meilleur hôpital en Algérie. C'est bien. Mais ça, normalement, hôpital de l'armée. Et même toi, Cabrian, tu es allé pour soigner là-bas. Mais ça, c'est l'hôpital de l'armée, c'est pas pour l'armée. C'est juste pour les généraux, pour la famille des généraux, pour les voisins des généraux, les ministres. Toi, même toi, commandant, tu rentres pas. Pas pour les gens en banque. Quand tu ramènes des matériels, c'est pour vous, pour toi, pour les riches, c'est pas pour les pauvres. Tu vois, le président, il dit, je donne un aide, parce qu'il n'y a pas d'aide là-bas. Il n'y a pas d'aide. En plus, moi, j'ai connu beaucoup de monde, ils travaillent dans le taxi, ils gagnent de journée dans le taxi. Ça veut dire combien de gagner. Il achète du truc, il est fini la journée. Il travaille toute la journée pour gagner un peu d'argent et un peu d'argent. Il achète du truc juste pour la nourriture, pour manger. Et maintenant, le taxi, il travaille pas. Ça veut dire que les gens, il n'a pas d'argent pour manger. Le président, il dit, oh, je donne un aide pour les gens. Et combien l'aide, ça? C'est presque 50 euros. Tu vois, il y a un parmi de 4, 5 personnes qui donnent un aide juste une fois. 50 euros, c'est quoi 50 euros? Pour acheter quoi? C'est rien. En plus, cette aide, il y a beaucoup de gens, ils font la chaîne, tu as dit, ah, il faut dormir là-bas, toujours pour prendre ça. Il n'y a pas, les gens ne sortent pas dans la rue, dans les réseaux sociaux, et toujours continuer, ils disent, on n'arrête pas, il faut continuer pour changer tout.
Et on fait quoi maintenant?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Ce dimanche, de midi à 13h, c'est le brunch bloc sur Radio Canu.
Au menu, des quiz, des défis, des chansons, des recettes et des dédicaces.
Si vous voulez nous appeler pour participer, un numéro, le 06 05 75 12 48.
On se retrouve à la table de pique-nique? Elle est à chat.indimedia.org, dièse brunch bloc.
C'est hyper dur à dire brunch bloc, le brunch bloc.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire.
Du vendredi.
Bonjour Marius. Eh ben aujourd'hui, ACAB, ça veut dire l'académie. Et oui, rien que ça, l'académie conseille d'aimer les brunchs. Tenez-vous le pour dit, court rendez-vous dimanche à 12h pour le brunch de Radio Canu. Et en attendant, tout de suite, Noise Pollution, une émission de musique classique.